Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez le premier épisode de cette toute nouvelle session, le grand retour, la saison 4, épisode 1 de Coup Critiques. Émission où on parle de manga, de BD et parfois d'autres trucs toutes les deux semaines. Aujourd'hui, on est avec Mathieu, avec Abigail et avec moi, Aeva. On est tous les trois membres de la BD BDEC, la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour suivre toute notre actualité et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission, émission un peu spéciale car on va essentiellement parler de nos lectures de ces derniers mois, potentiellement digresser un peu, puis pour tout ça reprendre en douceur notre format d'émission. Donc je vais laisser Abigail commencer par nous parler de ses lectures récentes. Je te laisse la parole.
Bah, du coup, bonjour à tous, moi c'est Abigail. Et je voulais parler d'une lecture qui, bon, ça commence à dater un petit peu le temps que je l'ai lue, mais ça s'appelle Welcome to St. Hell, My Trans Teen Misadventure. C'est de Lewis Hancock et il l'a publié en 2022. Et je l'ai lue bah, du coup là, il y a quelques mois, et j'ai beaucoup aimé. Ça parle du coup d'un jeune homme trans. Il nous raconte ses années de jeunesse, particulièrement de lycée, dans une petite ville en Angleterre. Et du coup, les difficultés qu'il a rencontrées, à se trouver lui-même, à affirmer son identité, les différents labels par lesquels il est passé. Par exemple, il s'identifiait comme lesbienne pendant un certain temps jusqu'à découvrir qu'en fait, bah, c'était un homme trans. Des choses comme ça. Et c'est tout fait sur le ton de l'humour que j'ai beaucoup aimé. C'est des aventures qui à la fois parlent donc, de la dysphorie qu'il a ressentie, de ses difficultés dans son propre corps à se comprendre, mais aussi juste de difficultés que n'importe qui aurait pu ressentir au lycée. De harcèlement, de difficultés à se faire des amis, à s'intégrer dans différents groupes, de savoir à quel groupe on appartient. Et donc, je trouvais ça très intéressant comme lecture et aussi très amusant sur certains aspects parce qu'il raconte de façon très brute des choses qui lui sont arrivées, comment il essayait de se rendre plus vieux pour pouvoir rentrer dans des bars, dans des boîtes de nuit et tout ça avec ses amis, comment il s'est forcé à se maquiller pendant un certain temps, comment il a eu un style émo à un moment. Et il parle donc du coup de différentes choses qu'il a faites, et c'était dans les années 1990-2000 qu'il était adolescent. Donc il parle aussi de choses comme MySpace, des musiques qui étaient populaires à l'époque, et donc c'est une lecture très fun, pas trop dure à lire, ce que j'ai apprécié, et en général très intéressante.
C'est vrai que le risque avec ce genre de lecture, c'est que ce soit hyper lourd, hyper dur à lire des fois, et en même temps c'est normal, parce qu'il y a des vécus qui peuvent être hyper difficiles des fois aussi. Mais du coup ça doit être agréable de lire un peu ça d'une manière un peu plus légère peut-être, un peu plus drôle et tout, mais avec des sujets sérieux quand même.
Et non, il y a des sujets vraiment sérieux, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, bah, comme je l'ai dit, sur le ton de l'humour. Ce qui est très agréable. Et je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce genre de récit, que tu sois trans ou pas. Je pense qu'il y a vraiment des moments où tout le monde peut se dire « Ah, mais en fait, je me suis déjà sentie comme ça au lycée, ou même à l'université, ou plus tard, avant. » Peu importe, on a tous eu des moments comme ça où on s'est demandé « Bah, où elle est ma place en fait ?» Et le fait que ce soit raconté sur un ton plus léger, ça permet de s'identifier sans que ce soit vraiment lourd ou trop difficile à lire. Moi, je l'ai lu d'un seul coup comme ça, du coup, parce que c'était vraiment... C'est une lecture fun.
Ok, d'accord. Ouais, non, c'est... En vrai, ça a l'air super sympa. Et puis, ouais, du coup, de ce que tu dis, j'ai l'impression que ça fait un peu genre le vécu, on va dire, d'un lycéen quelconque, mais qui se trouve qu'il est transgenre. Et du coup, c'est un peu ce que tout le monde traverse. Mais bah, lui en particulier, c'est ces choses-là, mais ça se recoupe peut-être avec le vécu d'autres personnes.
Exactement.
Et okay, je vois. Mathieu, t'as quelque chose à...
Je suis en train de le lire, en fait. Je suis en train de le lire, en fait.
Je suis en train de lire la BD.
Ouais. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, dysphorie.
La dysphorie de genre, c'est ce qui arrive aux personnes trans quand, en gros, leur corps ne correspond pas à ce qu'ils ont à l'intérieur. Si ça a du sens, c'est quand tu vois ton corps et que tu sais que, bah, par exemple, toi, t'es un homme, mais le corps que t'as ne correspond pas à ce que tu sais de toi-même. Et donc, ça peut être très difficile à vivre quand tu te regardes dans le miroir et que t'as un corps qui correspond pas à qui tu es.
Ok.
Et donc, tu as tendance à voir ces traits qui te plaisent pas, exagérés et tout ça. Et c'est assez difficile à vivre.
Ok. Et donc, c'est ce qu'elle vit dans le... Ou ce qu'il vit, j'ai pas compris, en fait.
C'est ce qu'il vit.
C'est ce qu'il vit, parce que du coup, c'est un homme transgenre. Du coup, c'est il. Si j'ai bien compris.
Oui.
Et voilà. Et du coup, c'est ce qu'il vit pendant la BD. Donc ça me fait une super transition pour parler de Éclat d'âme, un manga écrit par Yukite Kanami à partir de 2015 et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui lui aussi est au lycée et sur lequel courent des rumeurs à propos de son homosexualité. Et voire même du harcèlement en fait par rapport à ça. Et il trouve refuge dans un club de discussion, un peu quelconque, un peu par hasard, où il se fait accueillir dedans par une personne un peu étrange, que tout le monde appelle l'hôte, mais sans connaître son prénom. Et il se rend compte en réalité que ce club de discussion, c'est un peu plus que ça, et c'est en réalité un club où peuvent se retrouver les personnes LGBT. Et il va pouvoir, au contact de ces personnes, arriver à mieux se comprendre lui-même et arriver en fait à mieux comprendre les autres aussi. Parce que pour moi, c'est la grosse thématique du manga, c'est arriver à se comprendre soi-même et jusqu'à quel point est-ce que tu peux vraiment comprendre les autres. Parce que toutes les personnes LGBT ne se ressemblent pas, ne sont forcément pas toutes pareilles. Et il y a un moment assez, assez intéressant où en fait, il essaye de calquer son vécu de lui personnel d'homme gay de 17 ans à une personne transgenre beaucoup plus jeune que lui et en fait ça marche pas du tout parce que tu peux pas, même si tu es tout le monde des LGBT, tu peux pas comprendre tout le monde non plus de la même façon et c'est essayer de faire de son mieux en fait et essayer de, on va dire, rester à sa place et aider les autres autant que possible. Et aussi je trouve que ça illustre très bien le fait d'être bien entouré. Et surtout le principe et l'intérêt d'une communauté en fait, et à quoi ça peut servir une communauté, genre la communauté LGBT dans ce cas-là, et pourquoi c'est important que des communautés existent. Et je trouvais que c'était un manga très juste, très agréable à lire et aussi super touchant, dans lequel je me suis beaucoup reconnue et dans lequel voilà, ça m'a beaucoup émue de le lire. Et puis évidemment, il y a des passages un peu moins rigolos parce que ça parle quand même aussi beaucoup d'homophobie et d'homophobie banalisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui n'ont pas des comportements on va dire ouvertement homophobes où ils veulent tabasser tous les homosexuels qu'ils croisent, mais plus des comportements où on va dire de la fausse sympathie en fait, ou alors de la sympathie très très mal placée, et du coup tout ça je trouve que c'était vraiment une petite perle ce manga que je recommande à tout le monde et que je trouve aussi très bien dessiné avec des images fortes.
Bah, il est sur ma liste depuis un certain temps, donc avoir des retours positifs, ça donne encore plus envie de le lire. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait d'avoir un club de discussion et d'être entouré de gens d'une même communauté, que ça peut aider. Parce que je sais que dans mon lycée, c'était un peu similaire. Il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas ouvertement homophobes. Ils ne vont pas aller taper les homosexuels. Mais vaguement condescendants. Il y avait beaucoup d'incompréhension, je pense. Et mon groupe d'amis était très LGBT et il y avait beaucoup de soutien, du coup, par là, et donc ça permettait aussi de plus ignorer les autres et pas faire attention à ce qui se disait sur nous. Et c'était vraiment cet esprit de communauté, de se comprendre, même si on n'a pas forcément les mêmes expériences, on a cette compréhension les uns des autres de ce fait-là.
Et puis ce que j'ai bien aimé dans son cas, c'est qu'il y a la représentation d'un peu tout le monde en termes de LGBT, ça ne se concentre pas que sur les homosexuels par exemple. Il y a aussi des personnes transgenres, de tout type de personnes en fait, c'est des personnes asexuelles aussi dedans, et du coup c'est des c'est vraiment intéressant de dire ça. Il y a des lesbiennes aussi, enfin il y a vraiment un petit peu pour tout le monde on va dire, et un petit peu de tout, et je trouve que ça montre plutôt bien la diversité de la communauté en peu de tomes quand même, c'est que 4 tomes. Et aussi c'est vrai que par rapport à cette espèce de fausse sympathie ou de comportement, c'est pas vraiment l'homophobie pure, mais c'est un peu bizarre quand même. Au tout début du manga, il y a un des amis du personnage qui lui dit « Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai jamais pensé que t'étais gay et tout, genre... Parce que là, il est pas out, et il est en train de dire « Non, moi je suis pas gay, machin. » Et du coup, quand ton ami te dit « Mais t'inquiète pas, moi je pense vraiment pas que t'es gay. » En fait, c'est pas méchant, mais en fait, si. Donc, c'est des choses... ça parle beaucoup de ce genre de choses. Après, t'as des comportements un peu plus violents qui sont présentés aussi. Et dans tous les cas, c'était une très bonne lecture. Mathieu, t'en penses quoi ? Ça donne envie de le lire ?
Je sais pas, il y a un aspect un peu magique, là, j'ai l'impression.
Un petit peu. En fait, il y a surtout, c'est surtout centré autour d'un personnage. C'est un peu flou au niveau de tout. Et je trouve que ça va bien avec... En fait, il faut le lire pour comprendre, je pense. Et je pense que ça va bien avec le mystère qu'incarne ce personnage-là, qui ressort aussi un peu au travers de, on va dire, sa sexualité, son orientation sexuelle, plutôt. Voilà, mais il faut le lire pour comprendre, je pense.
Ouais.
En tout cas, très bonne lecture pour ma part, que je recommande à tout le monde.
C'est super chouette d'avoir de la représentation asexuelle, parce que c'est quelque chose qui est vraiment rare dans les mangas, mais même juste dans la littérature en général.
Ouais.
Donc je trouve ça vraiment cool que ce soit inclus.
Ouais, c'est vrai, c'est très...
C'est sûr que dans les mangas, moi, je pense à rien, là.
Ouais, non, c'est vrai que j'en ai jamais vu ailleurs non plus, et ça m'a beaucoup surpris quand je suis arrivée à ce moment-là, Je me suis dit, bon, ah oui, genre, je m'y attendais pas du tout. Et après, enfin, faut lire. Et moi, c'est vrai que je suis pas asexuelle personnellement, donc je saurais pas dire si la représentation qui en est faite dans le manga elle est bonne ou pas. Mais en tout cas, une représentation quand même. Et puis, de toute façon, c'est comme tout. Hein, je veux dire, on est tous différents, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vous invite à lire pour en comprendre plus, pour en savoir plus sur ce personnage et sur tout ce qui se passe dans ce manga et qui est super intéressant. Voilà, et je crois que Abigail, tu avais une autre lecture LGBT, alors, on va dire, à nous partager.
Parce qu'on est sur le thème de la communauté, et là, c'est justement, ça montre à nouveau l'importance d'avoir une communauté via un personnage qui n'en a pas. Donc, je voulais parler de My Lesbian Experience with Loneliness de Nagata Kabi, qu'elle a publié en 2016, et qui est son expérience au Japon d'être lesbienne et d'avoir énormément de mal à s'affirmer, à l'exprimer, mais aussi il y a énormément de... elle parle énormément aussi de sa santé mentale, dont de sa dépression, de l'angoisse et de l'anxiété qu'elle subit. Et alors, c'est une lecture assez difficile, parce qu'il y a des passages assez explicites sur les idées noires qu'elle avait, sur le fait qu'elle a pu se mutiler, des choses comme ça. Il y a des passages aussi assez difficiles à lire sur le fait que ses parents ne la comprennent pas du tout. Et autant dans Welcome to St. Hell, c'est dépeint de, enfin c'est montré de façon un peu plus comique de l'adolescent rebelle qui veut pas écouter ses parents. Là, c'est très très juste, mais donc très frappant et assez difficile à lire. Et le manga commence de façon assez intéressante que j'ai bien aimé, qui est dans un de ses moments les plus difficiles. Le personnage principal va voir une escorte féminine pour juste essayer de se découvrir un peu mieux, parce qu'elle n'a jamais eu aucune expérience avec une femme, avec un homme, avec qui que ce soit, dans toute sa vie, et elle va vers ses 30 ans. Et donc du coup, elle embauche cette escorte, et au final, tout ce qu'elles font pendant... alors je ne sais plus combien de temps exactement, pour combien de temps elle l'embauche, mais en gros, tout ce qu'elles font, c'est juste des câlins, parce que le personnage principal est vraiment juste en manque d'affection et de contact humain. Elle est extrêmement isolée. Elle a personne à qui parler, et ça lui fait une sorte d'exutoire, et c'est extrêmement important pour elle.
C'est super triste. Ça n'a pas l'air très rigolo, mais... Ok, d'accord. J'en ai entendu parler, je crois. Parce qu'il me semble que c'est assez connu quand même comme... C'est un manga, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Il me semble que c'est assez connu comme manga, et j'en ai pas mal entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Pareil, c'est sur ma liste de trucs à lire, et je ne l'ai pas lu.
Il y a un peu d'espoir quand même.
Ouais.
Alors oui,
il y a... Pas, au final.
Non, il y a vraiment de l'espoir à la fin. Et ensuite, elle a fait d'autres mangas qui suivent son expérience après ça et après la publication de celui-ci. Et sa vie a vraiment changé. Elle avait peur de ne pas pouvoir se retrouver dans le monde de l'art, pas réussir à faire carrière en étant artiste. Et finalement, du coup, elle y arrive. Et ça devient de plus en plus positif, même si, du coup, ses problèmes de santé mentale la suivent. Il y a toujours des moments avec de l'espoir et ça va de mieux en mieux.
C'est autobiographique, du coup ?
C'est autobiographique.
Ok. Moi, ça m'intéresse de le lire, en tout cas.
Je recommande fortement, mais après, c'est une lecture un peu difficile. Il faut être prêt à la lire.
Ok, d'accord, je vois. Bah après, c'est vrai que ça peut être difficile, mais je pense que c'est bien de se confronter quand même à des expériences comme celle-là. Et... Mais c'est bien de lire même des choses difficiles, des fois, et de, on va dire, sortir un peu de...
Bah non, mais c'est bien, parce qu'il y a peu de gens qui racontent ça, au final.
Bah ouais.
Et le fait que ce soit vrai, en plus, ça rajoute quelque chose en plus, je pense.
Mm. Ouais, non, mais ça a l'air assez unique, comme...
Oui, non, ça l'est, mais c'est super touchant, c'est vraiment très émouvant, d'accord. Et c'est une très belle lecture.
D'accord, bah merci beaucoup pour ta recommandation. Moi, pour clore cette section dernière lecture autour des thématiques LGBT, sur un ton un peu plus rigolo quand même cette fois, j'ai lu un manga qui s'appelle Que tard légendaire versus cul d'acier, qui est publié depuis 2021 et écrit par Toto Fumi. Petite anecdote sur comment est-ce que j'ai eu ce manga, avant de raconter un peu plus qu'à dedans, c'est des amis qui m'ont offert pour rigoler, on va dire, parce que c'est un manga en fait, c'est un manga yaoi, c'est-à-dire que ça représente la romance entre deux hommes, et c'est un manga yaoi très explicite, c'est-à-dire qu'il y a des scènes explicites, quoi. J'ai pas besoin de dire exactement ce que c'est qu'une scène explicite, et on va dire que le résumé de l'œuvre, si je peux le dire en quelques mots, c'est: entre la lance la plus forte et le bouclier le plus fort, lequel des deux l'emporte?
Bon.
Bon, voilà, ils vont s'affronter dans ce domaine-là. Mais voilà que pendant l'affrontement commence à naître un sentiment qu'il n'avait jamais connu.
Ah ben oui, t'as pas commencé mais...
Eh ben oui, parce qu'au début, c'est
vrai. Ah oui, non, je l'ai juste sous les yeux. Déjà, le style est super joli.
En vrai, le style, moi j'aime bien le style de dessin. Le style de dessin est très joli. Maintenant, il faut... En vrai, c'est super drôle. Moi, ça me fait trop rire. Mais en fait, je sais pas si je rigole les bonnes choses parce que... Comment dire, je sais pas si le manga est fait pour être drôle, vraiment. Ou si juste, oh, c'est hilarant parce que c'est complètement absurde en fait ce qui se passe. C'est complètement absurde, ils vont se mener une espèce de combat qui est monté par tous les autres étudiants et tout, qui veulent qu'ils se battent pour aucune raison. Et puis au final ils apprennent, parce que tous les deux ils ont, comment dire, ils ont jamais été trop dans les relations amoureuses, si on peut dire ça comme ça. Et pour la première fois ils tombent amoureux de quelqu'un. Et c'est beau. Et en fait, honnêtement... Pour être honnête, c'est pas très bien. C'est pas très bien écrit, mais c'est pas l'objectif que ça soit très bien écrit, je pense. Mais je me suis quand même attachée au personnage.
Non mais, je suis en train de regarder une des premières pages. Puis-je citer ?
Bien sûr.
L'acte de pénétrer l'autre équivaut à la victoire.
Bah oui. Bon.
C'est génial.
Oh, c'est super drôle. Mais... voilà pour cette petite lecture. Mathieu, je crois que tu l'avais lu ou un peu feuilleté, il me semble.
Ouais.
Alors, t'en as pensé quoi ?
Bah, je pense que je suis choqué, en fait. Non, mais je sais pas, moi, je trouve ça juste marrant, en vrai. Je sais pas quoi penser d'autre. Après, je l'ai pas lu autant que toi, quoi. J'ai juste lu le début.
Non, mais tu quand tu dis ça, j'ai l'impression que j'ai passé des heures à le lire, à le relire. Mais ouais, c'était...
Bah ouais.
Une lecture, en fait, c'est une lecture qui laisse pas indifférent.
Ah non, ça c'est sûr.
Pas du tout, et c'est vraiment rigolo.
J'invite tout le monde à ouvrir les pages de ce livre et à le feuilleter. C'est vrai ?
Oui, je suis d'accord.
Enfin,
pas les enfants.
Oui, pas les enfants.
Pas les plus jeunes, non. Vraiment pas. Mais sinon, je pense que c'est une lecture intéressante.
Bon, il y a trop de phrases qui vont pas dans ce livre.
Mais il y a rien qui va dans ce livre de toute façon.
Non, après, je pense que c'est détendant comme livre. C'est pas une lecture aussi difficile que les autres choses dont on a pu parler.
Oui, vraiment pas.
Voilà, ça te sort un peu de ta tête et ça te...
Ah, complètement. Là, c'est juste marrant, en fait. Franchement, c'est juste marrant, c'est un peu léger, c'est...
Non, mais c'est bien d'avoir des lectures comme ça, c'est fun.
Ça change. Ça change un peu.
Récemment, j'ai pas non plus lu de la grande qualité littéraire.
C'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, ça arrive. Mais c'est bien, des fois. Je me dis, si tout ce qu'on lisait était des choses excellentes, bah plus rien ne serait excellent, au final. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Bon, pour finir cette section sur un peu... quelque chose qu'on a lu autour des thématiques LGBT. On va partir sur une petite pause musicale et on revient pour la suite avec d'autres œuvres autour d'autres thématiques cette fois. À tout de suite. Bienvenue de nouveau dans notre super petite émission. Maintenant, c'est Mathieu à son tour de parler. Il n'a pas beaucoup parlé jusque-là. Du coup, là, maintenant, on va pouvoir l'entendre. On va pouvoir l'entendre nous parler de ce qu'il a lu récemment. Lance-toi, dis-nous tout. Nous t'écoutons.
C'est à mon tour.
Ouais, c'est à ton tour.
Bon. J'ai lu Cassis BD. Bon, en fait, c'est les initiales d'un comics qui s'appelle Kill Six Billion Demons, qui est sorti en 2013. Et c'est pas un comics classique parce qu'en fait, il est publié directement en ligne, gratuitement, donc tout le monde peut le lire. Et en fait, j'ai découvert ça il y a deux jours. Et j'ai dévoré... Donc en fait, il y a 5 tomes, 6, et ça finira au 6e. Et je pense que j'ai dévoré 2-3 tomes en un jour au final. Et j'ai recommencé à lire parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas compris grand-chose. Donc en fait, juste pour raconter rapidement l'histoire qui est un peu compliquée à comprendre quand on lit pour la première fois, ça parle d'une jeune femme qui, de nulle part, se fait transporter dans un autre univers. C'est vraiment très particulier. Je sais pas exactement comment le résumer. Mais en gros, pour comprendre, elle fait quelque chose au hasard. Elle vit sa vie quotidienne. D'un seul coup, il y a une sorte de demi-dieu qui arrive, qui la transporte avec un artefact dans une autre dimension. Et en fait, elle se retrouve dans un univers qui s'appelle Trône, qui se trouve être l'univers au centre de tous les univers. Et il se trouve que l'artefact qu'on lui a donné, c'est, on va dire, une arme ultra puissante qui est combattée par toutes les personnes à l'intérieur de cet univers. Elle se retrouve là, elle ne sait pas pourquoi elle a la clé. Elle se fait poursuivre par plein de mecs. Il y a des anges qui arrivent, elle ne comprend rien. Nous, en tant que lecteurs, on ne comprend rien. Mais c'est génial quand même, pour plein de raisons. La première, c'est que si on aime beaucoup la fantasy, qu'on aime beaucoup les univers, on va dire, très particuliers, très spéciaux, c'est incroyable. D'un point de vue graphique aussi, en fait, ce qui est très bien, c'est vraiment que par rapport à ce que je lis d'habitude, c'est très spécial et que surtout, le fait qu'on ne comprenne rien au début, mais que ça nous garde accrochés, ça en fait quelque chose de vraiment bien. Alors après, je ne sais pas trop ce que je peux dire en plus.
Mais du coup, je reviens sur le titre. Kill 6 billion demons, genre elle a tué 6 milliards de...
Mais dis-toi qu'au deuxième tome ou au troisième tome, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelle comme ça.
Ça fait beaucoup de démons à tuer.
En gros, c'est juste que apparemment, il y a un délire avec les noms, mais vraiment, c'est hyper obscur. Deuxième, troisième tome, on comprend toujours rien. En fait, on sait toujours pas. On sait qu'il lui a donné la clé, mais il lui dit tu t'appelles Kill 6 billion demons. Oui, excuse-moi. Donc, la meuf qui s'est fait transporter dans une autre dimension, c'est une personne qui lui a donné l'artefact. Uh-huh. J'appelle ça la clé parce que ça s'appelle une clé, on va dire, dans l'univers. À certains moments, elle la retrouve, on sait pas pourquoi. Et à ce moment-là, il lui donne des informations, mais en fait, on comprend rien.
D'accord.
Et parmi ces informations, il lui dit qu'elle s'appelle Kill 6 Billion Demon, et on sait pas pourquoi non plus.
Ça a l'air très confus, ton
histoire. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien.
Dans tous les sens. Ok, d'accord.
C'est pour ça que c'est bien, justement. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part qu'il faut le lire, puisque c'est presque fini et que c'est complètement gratuit. Tout le monde peut le retrouver sur le site. Donc okay. C'est vraiment super.
Alors, le manga, il est en libre accès sur le site
C'est pas un manga, c'est un comics.
Ah, excuse-nous, monsieur. Ok, d'accord.
Ça fait vraiment un peu l'inverse de Omniscient Reader, où genre là, le personnage principal sait ce qui se passe et sait tout ce qui va se passer. Là, le personnage principal est complètement perdu dans ce nouvel univers.
Ouais.
Ouais, je vois. Bah, effectivement, même le lecteur, il est perdu. Enfin, tout le monde est perdu.
Tout le monde est perdu.
Ça va dans tous les sens. Ok, d'accord. Et il y a combien de tomes à peu près, tu sais?
Il va y en avoir 6. Et là, ils en sont au 6e, de ce que je vois. Alors, juste. Ouais, non, j'allais dire chaque tome fait 10 chapitres, sauf que c'est pas le cas, mais. En gros, il reste une dizaine de chapitres au maximum avant que ça se termine complètement. Donc, c'est presque le bon moment pour commencer. Peut-être faut attendre un tout petit peu, mais ouais, c'est vraiment vraiment très bien. En fait, je suis vraiment tombé dessus par hasard.
D'accord.
Et je suis très content d'être tombé dessus.
Lisez tous Cassis BD, Kill 6 Billion Demons. Peut-être qu'en continuant à lire, on comprendra pourquoi est-ce qu'il faut tuer 6 milliards.
Je vous expliquerai si je comprends quelque chose, parce que vraiment, je comprends rien, mais c'est pas grave.
Bon, on comprend rien, mais il faut lire. Bon, suite à ça, moi, je vais parler d'une autre lecture que j'ai lue récemment qui s'appelle Bota Bota par Itagaki Paru, paru depuis 2021. Et je vais vous faire un petit résumé. C'est un one-shot. D'ailleurs, c'est par l'autrice, il me semble, de Beastars aussi. Donc, peut-être que vous reconnaissez les dessins ou peut-être des thématiques. Ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas lu Beastars perso, donc je ne sais pas trop. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a une espèce de syndrome particulier qui fait que dès qu'elle touche quelque chose qu'elle considère comme sale, elle se met à saigner abondamment du nez. C'est pas juste un peu, c'est vraiment des litres de sang qui sortent par le nez, quoi. Donc c'est un peu excessif, mais voilà. Et ce qui fait que ça la gêne dans beaucoup d'aspects de sa vie de tous les jours, mais surtout en fait au niveau relationnel, parce que c'est bien contre son gré, mais tout ce qui va être en rapport avec, on va dire, les relations sexuelles, etc., même juste embrasser quelqu'un, c'est terrible pour elle parce qu'elle fait que penser, on va dire, aux microbes des personnes, au fait que c'est sale. Et elle se met à pisser le sang du nez énormément, ce qui fait que il n'y a jamais aucune de ces relations qui aboutit, forcément, puisque vomir du sang, en quelque sorte, sur le visage de l'autre personne, ça ne la met pas très bien. C'est quand même un tue-l'amour assez certain. Et du coup, ce manga va raconter comment est-ce qu'elle essaye, autant qu'elle peut, de s'en sortir. Est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'elle s'en sort pas? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça aussi? Parce qu'il y a des raisons, en fait, de pourquoi est-ce qu'elle a ces saignements de nez intempestifs. Et j'ai trouvé ce récit hyper, hyper... En fait, c'était assez marrant déjà au départ. En vrai, c'était assez rigolo. J'adorais le style de dessin aussi, qui est assez... Enfin, assez unique, je trouve. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop vu ce style de dessin ailleurs dans des mangas. Enfin, je sais pas, ça m'a bien accroché. Et aussi, au final... Disons qu'il y a que le manga paraît un peu comme Éclat d'âme, en quelque sorte. Je le trouve très juste, mais ça se cache même pas mal derrière de l'humour. Mais il y a quand même un fond, une base assez, assez solide, on va dire. Et ça parle de choses très intéressantes au niveau surtout de traumatisme d'enfance, de ce que c'est que, on va dire, que la vie d'une femme, là c'est une femme hétérosexuelle en l'occurrence, et du coup de ce que c'est que la vie d'une femme hétérosexuelle par rapport aux hommes, en fait, par rapport aux relations, etc. Et je trouve ça super sympa. Et j'avais lu parce que, je sais pas, j'avais entendu parler, on m'avait un peu recommandé et tout. Et en fait, c'était même mieux que ce que je pensais. Enfin, c'est très rapide à lire en plus. Très sympa. J'ai bien aimé la conclusion du manga, franchement.
C'est un one-shot.
C'est un one-shot. Donc je vous invite tous à le lire.
J'ai l'impression qu'il y a plein de personnages particuliers à part elle aussi.
Ouais, il y a quelques personnages particuliers. En fait, en gros, dans sa quête d'essayer de se débarrasser de ses saignements de nez, en fait, le truc, elle n'a pas de... Comment dire ? En fait, je pense que c'est un peu... Ça me fait un peu penser au personnage de... c'était My Lesbian Experience with
Loneliness.
Exactement. En fait, dans le sens où, bah, du coup, elle arrive à... Enfin, elle n'a pas 16 ans, la fille du manga. Elle arrive à... Certains, je ne l'ai pas vieille non plus, mais je pense qu'elle est en milieu, fin de vingtaine, on va dire. Et du coup, elle n'a jamais eu de relation. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle non plus. Et je crois que même embrasser quelqu'un, c'est quasiment jamais arrivé parce que, bah, juste, elle se met à saigner abondamment du nez, quoi. Elle essaie de contrôler son corps, à faire en sorte d'enfin y arriver, parce qu'elle se dit, ok, si j'arrive à avoir une relation sexuelle à tel moment, peut-être que ça va me guérir et du coup j'aurai plus de problèmes après. Et le truc, c'est qu'elle essaie du coup un peu trop frontalement de régler son problème, alors que son problème, en fait, il a des racines spécifiques. Et si tu guéris pas les racines, ça marche pas pour le reste, en fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un développement assez intéressant et globalement très sympa à lire.
Je trouve le concept très intéressant et ça me fait penser, juste comme ça, je ne sais pas si c'est inspiré de ça ou pas, mais ça retourne un peu la trope dans les animés, dans les mangas, quand un mec trouve une femme belle et qu'il commence à saigner du nez. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de ça, que du coup, elle, c'est dans les relations sexuelles et amoureuses, quand quelque chose est sale, qu'elle se met à saigner du nez.
Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en vrai, je pense que c'est un petit peu ça le point de départ du manga, et c'est vrai que ça reprend carrément ce trope du mec pervers, un peu surtout dans les vieux animés, qui se met à saigner du nez dès qu'il y a une fille qui passe ou je sais pas quoi. Bah là, c'est un peu ça, sauf que bah, c'est des geysers de sang et c'est un peu gore du coup. En vrai, c'est un peu gore, mais c'est quand même super sympa à lire. Il y a un peu de nudité dedans, mais rien d'explicite, en tout cas pas du tout explicite à la manière de Qatar les chanteurs versus Cudacier, parce que ça parle pas du tout de la même chose et c'est pas du tout un manga érotique ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, je vous le recommande. Je vous recommande à 100%, super lecture. Voilà.
Ça a l'air vraiment bien.
Bah, ça l'est. Donc, je vous encourage fortement à le lire. Mathieu, tu voudrais peut-être nous parler de Over the Garden Wall.
Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé à la radio. Mais moi, j'aime beaucoup les séries d'animation et les films d'animation en général. Et donc, je suis en permanence à la recherche de nouvelles séries, de nouveaux trucs à regarder, un peu différents. Et ça faisait très, très longtemps que je voyais donc, des images, des trailers de cette série qui est assez ancienne, qui s'appelle donc Over the Garden Wall, La forêt de l'étrange en français. Et en fait, pour tous ceux qui aiment les séries d'animation, c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle d'un point de vue critique. Donc juste pour dire un peu d'où elle vient, cette série, c'est une série qui a été publiée sur Cartoon Network. Donc, encore une fois, pour ceux qui connaissent l'animation, c'est une chaîne de télévision américaine très connue, qui a notamment, pas publié, mais sur lequel est passé Steven Universe, pour ceux qui connaissent.
Oui.
C'est une autre série d'animation qui est très connue, je pense, et qui est incroyable. Alors moi, je ne l'ai pas vu en entier, mais tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, bon, on en parlera plus tard. Quand j'ai vu ça, que j'ai vu que c'était produit par Cartoon Network, que ça avait énormément de bonnes critiques, je me suis dit que j'allais regarder et que j'allais adorer. Bon, malheureusement pour moi, je ne l'ai pas trop aimé. Mais pour vous raconter un peu l'histoire, ça raconte l'histoire de deux demi-frères, Wirt et Greg, qui sont très jeunes, donc je pense qu'ils sont au collège, qui se retrouvent perdus dans une forêt de l'inconnu, et qui vont rencontrer en fait plein de personnages très étranges. Donc en fait, c'est très fantastique. Donc par exemple, ils sont poursuivis par une sorte de bête qu'on voit jamais. Ils rencontrent des grenouilles qui parlent. Ils rencontrent des squelettes dans des citrouilles. Bon bref, c'est très très un peu à la conte, comme des contes. Et ce qui est très bien, ce qui est très bien dans la série, c'est que c'est une toute petite série en 10 épisodes qui est terminée. Qui à chaque épisode raconte une histoire un peu indépendante, mais qui se suit quand même, donc chaque fois avec sa petite leçon, un peu la Steven Universe au final, avec des musiques vraiment super, et un ton un peu décalé qui est vraiment, moi je trouve vraiment très intéressant. Le problème, c'est que, donc on pourrait dire un peu comme Steven Universe finalement, et comme ce que fait Cartoon Network de manière générale, que c'est un peu, que c'est un peu tout public, donc on peut regarder ça quand on est plus jeune et quand on est un peu plus vieux. Malheureusement, je trouve que pour notre âge et pour les gens plus vieux que nous, peut-être que j'ai pas compris, mais pour moi ça reste un peu enfantin et il manque de réflexion un peu plus profonde sur l'œuvre, ce qui fait que moi, même si j'ai tout regardé parce que c'était très très court, j'ai pas trouvé ça si bien que ce que j'avais espéré. Voilà. mais ça reste très bien quand même. Donc je sais pas si t'as vu Steven Universe.
J'ai vu Steven Universe, et après j'ai un peu la même critique sur Steven Universe que celle que t'as sur Over the Garden Wall. Parce que après certains épisodes essaient d'aller plus loin et tout ça, et le film Steven Universe, je trouve, réussit plutôt bien. Mais certains épisodes, surtout les fillers, font très enfantin. Et je trouve que, autant j'adore les graphiques dans Steven Universe, j'aime beaucoup l'histoire, mais parfois, c'est facile de se lasser un petit peu.
Tu peux peut-être juste raconter l'histoire de Steven Universe, si tu t'en rappelles. Alors, juste le prélude, sinon...
Je l'ai vu il y a très longtemps. On est sur une petite île, très cute, et on suit Steven, qui est le fils d'un humain et d'une...
Extraterrestre.
Et les extraterrestres sont, en fait, associés à des pierres précieuses. Donc, du coup, on a... les émeraudes, les saphirs, les rubis.
Plein d'autres trucs, les perles.
Les perles,
oui.
Qui font des belles chansons. Et on suit ses aventures pour essayer de retrouver ses origines. Et de, ouais, il se fait des amis et on le voit un peu grandir et évoluer entre sa vie humaine et sa vie magique.
Ouais. Et en fait, un peu, enfin je sais pas, il y a beaucoup de trucs de cartes, d'œuvres de Cartoon Network qui sont comme ça. C'est des petits épisodes de 10-15 minutes où on suit la vie donc, du personnage principal. Chaque épisode est un peu indépendant, mais ça suit une continuité. Alors il se trouve que Steven Universe a eu beaucoup de succès, donc ça a duré très longtemps. Et ce qui est bien,
trop longtemps, si je peux me permettre.
Bon, moi j'en sais rien parce que j'ai pas vu en entier du coup. Mais ce qui est vraiment bien dans Cartoon Network, justement, c'est ce que tu disais, ce que tu as dit en deux secondes, c'est que la musique est toujours super, qu'il y a beaucoup de chansons aussi. Ça, c'est vrai que j'ai pas trop retrouvé ça dans d'autres séries d'animation, mais ce qui en fait quelque chose de très spécial et qu'on retrouve aussi dans Over the Garden Wall. Donc il y a pas mal de chansons, ce que je trouve super. Après, voilà, effectivement, moi je sais pas quand t'as vu Steven Universe. Moi je l'ai vu quand j'étais au collège. Je me suis arrêté à saison 4, un truc comme ça. Moi j'avais trouvé ça vraiment super. Après, j'ai rien regardé de la suite.
Je l'ai vu au collège début lycée, je pense, et j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque. Et ensuite j'ai commencé, donc si... je sais pas, t'en as peut-être entendu parler, ils ont fait Steven Universe Future. Qui est en gros, après tout ce qui s'est passé dans les saisons normales de Steven Universe, ouais. On suit Steven, mais maintenant qu'il est jeune adulte.
Okay.
Et je trouve qu'il y a un énorme contraste avec les épisodes précédents. Je pense qu'ils ont vu que l'audience grandissait avec le personnage, et donc ils ont vraiment tenté de faire un truc pour les jeunes adultes, sauf que c'est super déprimant, et ça change complètement de ton. Vraiment, j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'étais là comme « Oh mon Dieu, je suis triste maintenant. » Je regardais cette série pour genre, m'apporter un peu de joie. Je me sens vide.
Mais c'est bien ou pas?
Je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut avoir l'état d'esprit pour le regarder et je pense que le changement est un peu trop abrupt.
Ok, d'accord.
Okay. Après, c'est bien fait et je trouve que ça suit quand même plutôt pas mal l'âge de l'audience, mais ça fait du coup bizarre à voir comme ça.
Ouais, en fait, c'est ça qui est dommage avec ce genre de série et avec Over the Garden Wall, c'est que, bah, par exemple, pour Steven Universe, ça fait longtemps que je me dis que je veux le revoir, mais je me dis que si c'est comme Over the Garden Wall, au final, je vais pas du tout autant aimer qu'avant et ça va...
Ouais, ça va un peu gâcher ton expérience, gâcher le truc, ouais. Les souvenirs que t'en avais.
Ouais.
Ok, je vois. Parce que du coup, j'ai pas trop compris, c'est des séries pour enfants ou pour adolescents?
En fait, Cartoon Network, c'est une chaîne américaine de télévision qui fait plutôt des dessins animés pour enfants. Tu vois Ben 10?
Ouais.
Voilà. Mais qui diffuse aussi des trucs un peu plus pour adultes, on va dire jeune adulte, je dirais.
D'accord.
Mais que tout le monde peut regarder. Après, Steven Universe, c'est plutôt collège-lycée.
Ouais.
Ok, d'accord.
Je dirais qu'en général, c'est des choses où la plupart des gens peuvent trouver leur compte.
Oui.
Je sais pas si t'as entendu parler de She-Ra.
Non, je crois pas, ça ne dit rien.
C'est pas sur Cartoon Network, c'est une série d'animation Netflix que je recommande fortement si vous voulez des lesbiennes et de la fantasy. Okay. C'est très bien.
Ah, mais je crois que je vois du coup, peut-être que je vois.
Mais c'est un peu pareil où tout le monde peut y trouver son compte. Les enfants vont pas aller chercher trop loin et les jeunes adultes et adultes pourront chercher plus loin et aussi trouver des thèmes qui résonnent avec eux.
Ok, je vois.
En fait, ce qui est vraiment bien dans Steven Universe et Over the Garden Wall, enfin moi je trouve, c'est vraiment la musique et les chansons, ça rajoute quelque chose en plus. Qui est vraiment incroyable. Et le problème, c'est que, ouais... Bon, bref, je peux pas trop en dire sur l'histoire, mais malheureusement, je pense... Enfin, il y a certaines chansons qui sonnent beaucoup plus quand tu es bah, forcément investi dans l'histoire. Et vu qu'on a vieilli, je sais pas si ça résonnera aussi fort, malheureusement.
Je comprends.
Mais bon.
Je comprends. Bah, moi, c'est pareil avec les Winx, voilà. J'aimais beaucoup quand j'étais petite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus aussi bien. Dans un mauvais exemple. J'ai juste parlé des Winx rien qu'une fois.
Non mais j'aimais beaucoup les Winx. Après, ouais. Mon expérience de regarder les Winx est très particulière parce que je l'ai regardé en très mauvaise qualité sur YouTube.
Ah,
comme
oui.
J'ai regardé tous mes premiers animés.
Ah oui, mais je regardais à la télé quand j'avais 5 ans, quoi.
Je l'ai cherché sur YouTube. Je regardais Killary aussi, Pitchy Pitchy Pitch, Mew Mew Power, tous les trucs de Magical Girls. Moi, je les ai commencés en basse qualité sur YouTube.
Ok, oui, je vois. Et pourtant, t'as apprécié quand même.
Ah, j'adorais. Et bah, j'ai commencé One Piece comme ça aussi. Hein.
Ah oui, d'accord, ok. Mathieu, tu nous parles de Moon of the Moon ?
Ah oui, oulala, là, on part sur un autre truc très compliqué. Alors pareil, Moon of the Moon, bah, en fait, je m'ennuyais. j'ai cherché un truc au hasard et je suis tombé là-dessus. Alors, c'est un one-shot un peu obscur d'un type dont j'essaie de retrouver le nom. Mais c'est un one-shot, un peu la style manga, mais l'auteur est chinois. Et pareil, en fait, je vais vous donner le synopsis de l'histoire, mais ça ne représente absolument pas ce qu'est l'histoire. Vas-y. Donc en fait, l'histoire, ça se passe dans le futur. Il y a c'est le truc classique, quoi. Des humains ont réussi à développer des IA surdéveloppées, blablabla, qui ressemblent à des humains. Vraiment exactement comme des humains. Sauf que les scientifiques se sentent mal parce qu'ils les contrôlent au final, et décident d'en libérer un certain nombre. Et donc, en fait, en particulier, ils décident d'en libérer 5. Et le jour où ils décident de les libérer 5, donc en fait, ils ont mis une sorte de tracker sur eux. À partir du moment où ils appuient sur le bouton, entre guillemets, pour les libérer, les 5 disparaissent du tracker. Et du coup, ils décident de les retrouver pour les désactiver parce qu'ils pensent qu'ils ont fait une bêtise. Ils veulent aussi voir si leur expérience a fonctionné. En fait, ils veulent voir si ces IA surdéveloppées ont réussi à s'adapter à la vie humaine. Donc ça, c'est le plot de base, qui est assez classique. Et en fait, quand on lit le manga ou la BD, moi, si j'avais pas lu le synopsis, j'aurais absolument rien compris à l'histoire. Et en fait, j'ai absolument rien compris encore une fois.
Mais t'aimes bien lire des choses où tu ne comprends rien.
Ouais, parce que, bon, après, bref. En fait, j'aime bien lire les choses que je comprends pas parce que je me dis qu'il y a quelque chose, justement, que j'ai pas compris. Et ça en fait quelque chose d'intéressant pour moi que j'ai envie de relire pour comprendre, justement. Et ça fait 2 fois ou 3 fois que je lis et j'ai toujours rien compris. Donc, ouais. En fait, c'est raconté d'une manière très, très, très spéciale. Pareil, c'est très difficile à expliquer. On change en permanence de point de vue. Donc, on passe des IA, enfin, des robots. Mais on ne sait pas que c'est des robots. Donc, en fait, au début, on comprend pas. On voit les deux scientifiques. Il y a un accident de voiture. On ne comprend pas s'ils sont morts ou s'ils ne sont pas morts. Il y a une téléportation dans un autre truc. On ne comprend rien.
Ouais, c'est le...
Mais moi, ce genre de choses, j'adore. Parce que dans ma tête, quand je finis le manga, j'ai compris un certain nombre de choses. Et je me dis, mais j'ai dû louper tellement de choses. Et je le relis une fois. Et je le relis, je le relis, je le relis. Donc c'est en plus le titre, donc Moon of the Moon, je trouve ça super beau. Donc à chaque fois, je le relis. J'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelait comme ça, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. Voilà.
Non, mais en vrai, je comprends. C'est le genre de truc où quand tu le finis, ça reste avec toi parce que justement, oui, t'as l'impression d'avoir passé à côté de détails, de pas avoir tout compris et tout ça.
Ouais,
moi, j'ai tendance à relire aussi mes livres préférés, mes mangas préférés, parce que je sais que en plus quand je suis dedans, je lis super vite parce que je veux avoir la suite de l'histoire. Ouais, et du coup, quand je relis, je retrouve des détails à côté desquels j'étais passée. Parce qu'au final, comme j'ai lu vite...
Ouais, je comprends.
Non, en fait, ça en fait quelque chose de fascinant. Bref, c'est comme... Il y a des romans aussi comme ça, où on comprend absolument rien de ce qu'on... Enfin, peut-être pas absolument rien, mais où c'est très fragmenté, l'histoire. Et je sais pas, ça en fait quelque chose en plus, quoi. Parce que c'est même pas un gros livre. Il doit y avoir, je sais pas, 200, 300 pages. C'est pas grand-chose. Et pourtant, tu finis, tu dis, ouais, j'ai compris ça, mais j'ai rien compris du reste.
Ouais, ça fait partie du charme, en fait. Ouais.
Et moi, ça me donne envie de relire, de relire, de relire.
C'est ça qui est intéressant, quoi. Pour un peu arriver sur la fin de cette section, je pense que j'ai parlé quand même de Sur la colline où poussent encore ses fleurs. C'est une jeune fille qui est à la fin du collège et qui est un peu, qui est pas très contente de la vie qu'elle a, qui est un peu en crise d'ado, on va dire, plus ou moins. Et puis à un moment, elle fugue de chez elle et elle se réveille au même endroit, mais en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc au Japon. Comme on le sait, le Japon va perdre cette guerre. Sauf qu'à ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'ils vont la perdre. Ou en tout cas, ils ne veulent pas montrer qu'ils vont la perdre. Ils n'ont même pas le droit de le penser, en fait, qu'ils vont la perdre. Et elle va, on va dire, elle va rencontrer un garçon duquel elle va tomber amoureuse. Sauf que lui, eh ben, c'est un kamikaze. Elle sait très bien comment se finit la guerre, elle sait très bien que cette guerre elle est déjà perdue, mais lui il le sait pas, et elle vit dans un monde maintenant où elle a même pas le droit de le dire, de toute façon personne la croirait, et en fait comment le convaincre, et c'est extrêmement tragique, et c'est extrêmement triste, et d'ailleurs le manga voilà, est publié depuis 2021, enfin là il est fini en 2 tomes, c'est terminé, par Shiomi Natsue et Matsuze Daichi. Voilà, je vous invite En vrai, je vous invite à le lire, c'est très court à lire, c'est super triste aussi. C'est super triste et je pense que ça permet de plutôt bien cerner, on va dire, le mindset des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, et de, on va dire, de comment ça fonctionnait et de pourquoi est-ce qu'il pensait comme ça. Et t'as tout ce truc par rapport au kamikaze, en fait, où elle, ça lui paraît horrible, et même à nous, quand on lit ça, ça nous semble horrible d'aller faire une mission de suicide comme ça, tout en le sachant très bien. Mais pour eux, ça leur... Enfin, bien sûr, c'est terrible, mais en même temps, c'est plus quelque chose dont il faut être fier, en fait, quelque chose qui amène de l'honneur, en quelque sorte. Du coup, c'est un peu spécial, mais c'était très bien.
Je trouve le concept juste incroyable, parce qu'il y a énormément de trucs sur la Seconde Guerre mondiale du point de vue des Américains, des Français, des Allemands, mais du point de vue des Japonais, j'en ai pas vu tellement.
Ouais, il y en a beaucoup moins.
Moi, je pense pas. Moi, je pense enfin, juste qu'on, qu'on
connaît, on les connaît moins.
Je pense qu'on les connaît
moins. Oui, je pense qu'on les connaît moins.
Ouais, c'est ça. Ben, nous, en même temps, il faut dire que genre, en France et en Occident, on est beaucoup plus, bah, du coup, du, pas forcément du point de vue du côté, on va dire, des Américains et tout ça par rapport à ça. Du coup, on va être beaucoup plus exposé à un point de vue français. Européen slash plutôt américain en fait.
Et on est juste à côté de l'Allemagne, donc on est aussi exposé à ce point de vue-là.
C'est ça. Alors que le Japon, c'est beaucoup plus loin pour nous. Culturellement, c'est hyper différent aussi. Et du coup, ça permet d'apporter, ouais, c'est, on va dire, c'est une porte d'entrée, ces sujets intéressent et tout. Et c'est super, enfin voilà, c'est un peu du devoir de mémoire aussi. Et c'est super intéressant, super bonne lecture.
Bon, moi j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout.
Oui, non, mais toi aussi, voilà, je ne t'ai pas demandé ton avis. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, on peut peut-être passer, je pense, à la toute dernière partie de cette émission. Abigail, je te laisse la parole, parce que tu as lu beaucoup de théâtre récemment.
C'est ça. Alors, je vais pas faire trop de pub de Profit, mais...
C'est quoi Profit, juste avant?
Alors, Profit Roll, c'est l'asso de théâtre de l'UTC, qui est très très fun. Et pour faire un tout petit peu de pub, on fait un festival de théâtre du 30 mai au 2 juin. Ça va être très fun. Et bref, je commence à m'intéresser un petit peu à la mise en scène. Et c'est pour ça que j'ai lu énormément de théâtre en ce moment. Donc des pièces en anglais, en français, pour essayer de voir ce que j'avais envie de mettre en scène. Et ça m'a fait penser à juste le thème en général des adaptations. Parce que dans ce que j'ai lu, il y a certaines pièces qui ont été adaptées en film. Donc par exemple, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, où... si je ne me trompe pas, Incendie de Wadji Mouawad a aussi été adapté en film. Et même juste quand on fait de la mise en scène, on adapte une pièce à notre vision et on la met sur scène. Et du coup, ça m'a fait me poser pas mal de questions sur comment bien faire ça, comment rendre justice à notre vision et à celle de l'auteur également, que ce soit dans un film ou juste sur scène. Et voilà, donc j'ai lu des choses assez différentes. J'ai lu aussi une pièce qui s'appelle, que je recommande fortement. Elle est un peu longue à lire, encore plus longue à mettre en scène. Ça s'appelle August Osage County et c'est sur une famille extrêmement dysfonctionnelle qui découvre que le père s'est suicidé. Et donc ils viennent tous à la maison familiale pour s'occuper de ça et préparer les obsèques, regarder le testament. Et il y a plein de secrets de famille qui sortent au fur et à mesure de la pièce, donc les tensions sont très élevées. Le père était alcoolique, la mère est toxicomane, elle est addicte à différentes substances, ouais. C'est ça. Et c'est super intéressant de voir les enfants qui sont du coup devenus adultes gérer ça, ramener leur partenaire de vie, voir leurs enfants dans cet endroit extrêmement dysfonctionnel. Et j'ai trouvé ça aussi super intéressant comme pièce, donc je la recommande fortement.
Super. Bah, en vrai, moi, j'ai jamais... C'est vrai que du théâtre, j'en ai rarement vu, déjà, par des comédies musicales, mais j'en ai rarement vu, sinon...
J'adore les comédies musicales.
C'est trop bien, les comédies musicales. Et j'en ai encore... Enfin, non, j'en ai peut-être plus lu que vu, quand même, mais j'en ai pas beaucoup lu non plus, de toute façon. Et c'est vrai que cette question de... Bah, on va dire autour de la mise en scène, de comment tu fais coller ta vision à celle de l'auteur, et... Bah, c'est une question super intéressante que je n'étais absolument jamais posée. C'est intéressant que tu amènes ça, du coup, sur ta... Je crois que c'est la première fois qu'on parle de théâtre, en plus, dans l'émission. On n'a jamais parlé auparavant.
C'est possible, surtout qu'on a tendance à penser que le théâtre, ça va se limiter, enfin surtout le théâtre français se limite aux grands classiques, ouais. Donc Molière, Marivaux, Racine, enfin le Cid, alors qu'on a tout un monde de théâtre en France, mais pas que, beaucoup plus récent, et donc du coup qui peut un peu plus résonner avec les enjeux d'aujourd'hui. Et autant je veux bien que l'avare, c'est drôle, et on peut y voir des enjeux sur justement l'argent et tout ça, mais ça reste parfois un peu daté. Et on peut retrouver ces enjeux dans des pièces beaucoup plus récentes. Et donc, quand on commence à s'intéresser au théâtre, on découvre vraiment tout un monde.
Ok, je vois. Et est-ce que tu aurais des pièces de théâtre préférées, genre un petit top 3, que tu aurais vu ou lu?
C'est très difficile. dans mon top 3, alors bon, je crache sur le théâtre classique, mais après je vais dire ça, mais je mettrai Huis clos de Jean-Paul Sartre.
D'accord.
Que j'adore. Pour faire un petit pitch de la pièce, c'est un concept super intéressant. Tu suis trois personnages qui sont en enfer.
En enfer, ok.
Ils sont en enfer. Et ils arrivent encore à voir des bribes de leur vie qui continuent du coup sans eux. Et c'est des personnages qui sont complètement, enfin très différents les uns des autres, qui sont tous en enfer pour des raisons complètement différentes, mais qui, au fond, ont fait des choses horribles. Mm-hmm. Tous ont fait des choses horribles. Et ils se retrouvent dans cette pièce, ensemble, une sorte de salle d'attente dont ils ne peuvent pas sortir, avec juste une sorte de concierge qui passe les voir de temps à autre. Et c'est tout. Et ils sont condamnés à voir leur vie continuer sans eux, jusqu'au moment où ils ne pourront même plus voir ce qui se passe sur Terre, et à être ensemble, dans cet enfer. Et c'est de là que vient la célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres ».
Ah.
Voilà, voilà.
Ok. Je savais pas du tout. Super intéressant.
Voilà.
Super intéressant. Ça me fait penser, enfin, ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle « 12 hommes en colère » et qui est tiré d'une pièce de théâtre, il me semble.
Oui.
Au départ, c'est une pièce de théâtre. Et du coup, j'ai pas vu la pièce de théâtre. J'ai vu juste le film. J'ai adoré le film. Et en fait, ça s'est senti dans le film que c'est venu d'une pièce de théâtre. Du coup, c'est un huis clos aussi. Et bon, super. Super truc, en gros, très rapidement, c'est un jury, on va dire, de 12 hommes, en fait, qui doivent décider si, on va dire, dans un tribunal, hein, si l'accusé est condamné à mort ou non. Ils ont, du coup, la vie d'un homme entre leurs mains. Et la plupart, en fait, quasiment tous les hommes qui sont là, ils veulent expédier le truc, ils ont autre chose à faire. Ils disent, bon, bah, c'est bon, allez, coupable, condamné à mort. Sauf un qui maintient qu'on ne peut pas juger de la vie d'un homme en 3 minutes, comme ça, de discussion, et que ça demande un peu plus de réflexion. Et après, La suite, c'est la suite. C'est super, super intéressant.
Cette pièce est vraiment géniale aussi à lire.
Okay.
J'aimerais beaucoup l'avoir mise en scène, mais il n'y a pas toujours d'opportunité.
T'as d'autres recommandations de théâtre, sinon ?
Alors, oui, que j'aime aussi beaucoup. C'est sur un référentiel plus américain. C'est All My Sons de Arthur Miller. C'est traduit en Ils étaient tous mes fils, si je ne me trompe pas. Alors, ça se lit très bien sans avoir le contexte de la peur rouge qu'il y avait aux États-Unis à l'époque où ça a été écrite. Mais pour le petit contexte, c'était pendant qu'on accusait tout le monde d'être communiste et que si t'étais communiste, tu allais en prison parce qu'on avait trop peur des communistes. Donc, c'est écrit sur ce contexte-là et ça parle de la chasse aux sorcières dans l'époque puritaine aux États-Unis. Et dit comme ça, on dirait que c'est vraiment une pièce datée et tout ça, mais pas du tout. Parce que le langage utilisé n'est pas forcément trop daté ou quoi que ce soit. Forcément, on est chez les puritains, donc au lieu de s'appeler Madame Jean-Paul, il s'appelle Goody Jean-Paul, ce qui est très drôle.
Ouais, d'accord.
Mais c'est super intéressant, parce que ça parle du coup de fausses accusations, de la paranoïa qui règne vraiment à cette époque, et qui fait parallèle à du coup, la paranoïa qui régnait à l'époque où ça a été écrit. Et je ne peux pas trop en dire sans spoiler. Mais pareil, haute tension, si vous êtes très plus axé personnage que axé histoire, c'est très très bien à lire. Parce que on va vraiment au fond des personnages, de leurs fautes, mais aussi de leurs atouts. Et il y a beaucoup de manipulation aussi au sein de la pièce, et c'est super intéressant de s'intéresser à des personnages comme ça.
Ok, d'accord. Ok, je vois, super. Et toi Mathieu, t'as déjà lu un peu du théâtre, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Qui te plaît ? Pas du tout.
On va dire du théâtre, je peux pas. J'arrive pas. Enfin, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu aussi. Donc, juste tout ce que je sais, c'est que la dernière fois que j'en ai lu, après, voilà, c'est particulier, c'est quand on est au lycée qu'on est forcé de lire du théâtre. Ouais, donc, c'est pas pareil.
C'est pas le même...
Bon, la dernière fois que j'ai dû en lire, c'était au lycée, j'étais forcé. Bah, j'ai pas lu parce que ça m'a saoulé, quoi. Après, la dernière pièce que j'ai vue, ça remonte aussi au lycée, mais par contre, j'avais beaucoup aimé. C'était un classique, je pense. C'est La vie de Galilée. Peut-être tu connais ? Non, peut-être pas. Bon, bref, c'est une pièce de théâtre extrêmement connue, apparemment. Qui s'appelle La vie Galilée, et ça par contre, ça c'était vraiment vraiment très bien. Le problème c'est que je me rappelle de quasiment rien, je sais juste que j'ai passé un super moment. Mais je me souviens plus, enfin si bien sûr je me souviens un tout petit peu de l'histoire, mais ça c'était vraiment bien. Sinon le théâtre, en fait le problème c'est que ouais, j'ai tellement un mauvais souvenir du lycée, je pense que pour certaines personnes c'est la même chose avec la littérature, que j'arrive pas à me remettre dedans pour l'instant. Voilà.
Ok, je vois. Ouais, non, mais moi aussi les littératures, enfin la littérature au lycée ça m'a un peu traumatisée.
Je dis ça en tant que littéraire, mais moi aussi.
Ouais, ouais c'est ça. Parce que moi, j'ai un peu du mal à lire autre chose que des mangas personnellement. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais surtout, au lycée, je suis arrivée au lycée, j'aimais trop lire. Au final, je n'aimais plus du tout lire parce que voilà, on m'a forcé à lire des trucs qui m'ont donné envie de me taper la tête contre les murs. Genre. Je ne sais plus en fait.
La princesse de Clèves.
Ah ouais, mais c'est vrai, c'est pas lui celui qui m'a donné le plus envie de m'éclater la tête.
Traumatisé.
Ouais, j'avais.
Si long.
J'étais pas fan, mais en vrai, ça a été. Pour moi, le pire, c'était. Mais en fait, je me rappelle plus.
Belle Amie. Comment ça s'appelle ?
Oui, Belle Amie de Maupassant.
Ah vraiment ?
J'ai détesté Belle Amie de Maupassant.
Ah, j'ai plus de facilité avec Maupassant que les autres du
vrai.
Zola, j'en ai jamais lu. Désolée. Oh, il fallait. Enfin, ma mère voulait absolument que je lise. Ben, j'ai même plus le nom. C'est le truc sur les beaux magasins. Mais j'ai même plus le nom tellement je me suis endormie sur ce livre.
Ok, d'accord.
Je peux pas avec les longues descriptions. Et au moins, Maupassant, au bout d'un moment, il arrive à l'histoire, quoi.
Ouais. Oui, je vois. Moi, en fait, je me souviens que Belle Amie, je l'avais lu. Enfin, en mode les vacances d'été avant de commencer la seconde. Enfin, bref. Et après, on l'a étudié en seconde. Et moi, c'est en l'étudiant que j'en pouvais plus. Genre. Oh, oui, j'ai compris, c'est un connard, c'est bon, est-ce qu'on peut.
Oh non, c'est un arriviste, il est arrivé, c'est bon.
Ouais, c'est ça, c'est un arriviste, il est arrivé, ça suffit, c'est vraiment ça. Mais sinon, c'est avec des nobles qui font des trucs un peu horribles, essayent de manipuler une femme, et c'est un roman épistolaire.
Les liaisons dangereuses, c'est ça.
C'est autre chose. Oui, oui, les liaisons dangereuses, j'ai jamais fini. Voilà, ça m'a vraiment saoulé.
Et tout le monde dit que c'est trop bien et tout ça, je devais le lire en prépa. J'ai jamais fini non plus.
Mais c'est ça.
Voilà. J'ai vraiment pas accroché. Alors qu'en plus, c'est super dans les personnages, parce que c'est épistolaire, donc j'aurais dû aimer, mais oh, je pouvais pas.
Ouais, ah non, pareil. On a pas mal digressé sur les romans classiques du lycée, mais c'est pas grave, mais c'est ça qui est... C'est un peu intéressant quand même, c'est un peu marrant. Ça pourrait être un sujet d'émission entier d'ailleurs, je pense.
Ouais.
Oui.
Juste pour revenir un peu sur l'idée de mise en scène, genre de passer un peu de la vision d'un auteur à quelque chose d'autre, il y a un truc qui s'y raccroche un peu, c'est les adaptations. Du coup, les adaptations de, souvent, en tout cas de romans ou de BD en live action, en série. Peut-être l'inverse aussi, mais je crois que ça existe un peu moins. Parfois, ça arrive, mais ça arrive un peu moins peut-être.
Ouais, c'est plus souvent qu'on adapte un texte au grand écran.
Ouais. Et du coup, tu voulais peut-être parler un peu du live action de One Piece.
J'avais mentionné ça, en effet, parce que je sais que les live-action ont une très mauvaise réputation. Après le live-action de Death Note, qui était...
Ben, on l'a vu, nous. Moi, je l'ai vu.
Tu l'as vu tout seul, moi, je l'ai pas vu avec toi.
Bon, mince, alors. Je me rappelle de rien. On parle deux secondes de Death Note ou pas? En fait, il faut juste pas penser que c'est Death Note, et après, c'est bien, c'est terminé, c'est tout.
Mais le problème, c'est que c'est dans le titre, quoi.
Je sais pas, moi, c'était pas incroyable, c'était pas un bon film, mais encore une fois, moi, tant que je passe un moment, je me moque, j'ai bien rigolé, je crois bien. Je trouvais ça rigolo, et c'est tout, j'ai passé un bon moment.
Oh. Alors, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, mais c'est parce que j'ai vraiment bien aimé les mangas et l'animé de Death Note. Ah. Et donc, du coup, quand il y a un truc qui porte le titre de Death Note, mais...
Ouais, qui est nul.
Voilà. C'est un peu décevant, mais j'ai pas du tout eu la même chose avec, du coup, l'adaptation de One Piece, que je trouve, honnêtement, pas mal du tout. Je trouve que... alors, j'ai pas lu les mangas, j'ai surtout regardé l'animé. Mais je trouve que le rythme convient très bien à celui qu'il y avait dans l'animé. Et que bah, forcément, dans l'animé, en 50 épisodes, on a un arc. Que là, bah, en un épisode, on a un arc. Mais en même temps...
Bah oui, c'est une série. De...
C'est pas les mêmes codes non plus. C'est pas la même manière de mettre en scène, de filmer, etc. Et...
C'est ça. Et ouais. je trouve que c'est honnêtement bien fait. Les personnages sont attachants. Autant que dans l'animé, pour moi. Bien développés. Les costumes sont vraiment pas mal. Sauf dans un des épisodes où j'étais vraiment...
T'es horrifiée.
Alors, j'irais pas jusqu'à dire horrifiée, mais je pense qu'ils auraient pu prendre des libertés artistiques par rapport aux costumes qu'il y avait dans l'animé et le manga.
Ok, tu penses à quoi comme costume?
Alors, je n'ai pas son nom, mais si vous vous souvenez du pirate qui devient majordome pendant un moment et qui remonte ses lunettes de façon très spécifique.
Ah oui.
J'ai pas son nom non plus, mais ouais, je vois très bien.
Oui, tout à fait.
Et bah... En plus, c'était vraiment un de mes arcs préférés. Quand je regardais l'animé, à un moment, je remontais mes lunettes comme lui. Pendant un certain temps. J'avais une obsession.
Super drôle.
Voilà, il y a toute une scène vraiment avec ses lunettes. Et c'est là que ses acolytes savent qu'il est encore pirate au fond.
Ah.
Ça m'a marqué. Et donc, du coup, ses acolytes ont des costumes de chat. Parce que pirate, c'est genre les chats, je sais pas quoi.
Oui, c'est
et c'est horrible. C'est affreux. Dans le live action, ça fait vraiment super cheap.
Et alors qu'ils ont argent infini, mais bon.
C'est vraiment le truc qui m'a marqué.
Ouais, je vois. Ok, je vois. Mais je comprends parce que en fait, c'est un peu ça qui est compliqué à adapter, c'est qu'un manga, il y a des trucs très, très code manga, très cartoon, très surréaliste, très truc de chat ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est vrai que mettre ça à l'écran dans une série en live action, ça peut poser un peu des soucis, mais je te rejoins sur le fait que ça a été quand même plutôt bien fait dans One Piece. Genre, on dirait pas un truc en cosplay hyper cheap. J'ai rien contre le cosplay du tout, hein. Mais je pense qu'on s'entend quand je vois de quel de live action je parle. Ou...
Bah en fait, le truc, c'est que pour moi, on est mal placé pour dire ça parce qu'il faudrait demander à quelqu'un qui a jamais vu One Piece ou qui lit pas de manga ce qu'il en pense. Et moi, je pense que de son point de vue, il trouve ça très cheap. En fait, je pense que de mon point de vue, c'est quelque chose qui est fait pour les fans de One Piece déjà. Après, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont été introduites à One Piece grâce à ça. Mais... Ah ouais, vraiment ?
Ouais, ouais, non, j'ai une amie qui a lu du coup les 10 premiers mangas après avoir regardé la série.
Ok.
J'ai rien dit alors. Mais bon, de mon point de vue, ceux qui ont le plus de fun, c'est ceux qui ont déjà lu le manga, parce que c'est juste tellement marrant de voir ça que. Je sais pas.
Ouais, c'est ça. Après, sinon, au niveau moche, le casting, je le trouve bien.
Je suis vraiment d'accord.
Ça marche vraiment bien. Ouais.
Et pour les couleurs de cheveux et tout ça, je trouve que c'est super bien fait. Parce qu'il y a des live action où on voit que c'est des perruques moches.
C'est ça. Et puis, je trouve qu'ils ont quand même trouvé un bon équilibre entre le, on va dire, l'essence un peu de One Piece. Du coup, c'est très, on va dire, très coloré, très. Puis c'est pas du tout un trait réaliste dans le dessin ou quoi que ce soit. Et bah, le côté série où, bah, pour le coup, c'est des vrais gens avec des vrais costumes et des vrais cheveux et tout ça. Enfin, ils ont des perruques quand même, mais on s'entend. Et bah, au final, je trouvais que ça rendait quand même plutôt bien. Maintenant, je comprendrais qu'on n'aime pas quand même.
On va alors, dire. Ouais, non, je comprendrais qu'on n'aime pas, mais je trouve que. Et même sur les hommes requins, hommes poissons, honnêtement, le montage est vraiment pas mal.
Oui, c'était pas si mal.
C'est pas dégueu.
Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je crois que c'est assez étonnant parce qu'il me semble que la série, elle a quand même eu des plutôt bons retours au total.
Elle a eu d'excellents retours, je comprends.
Ouais. Il y a pas. Enfin, oui, évidemment, il y a des gens qui ont râlé parce que. C'est bizarre, c'est moche ou je ne sais pas quoi.
Bah, au début, je ne voulais pas la regarder parce que j'avais peur que. J'avais trop peur que ça fasse comme Death Note et que je regarde et que je sois là comme, oh mon dieu, je veux mourir.
Ok. Je vois, moi, je me demande juste combien de saisons il y aura au final parce que One Piece, c'est quand même très long. Même s'ils vont vite. Enfin.
On a un peu peur quand même. Hein.
Voilà. C'est que c'est quand même. Enfin, One Piece, c'est quand même un sacré bazar. Moi, j'ai lu le manga jusqu'au tome genre 45 et c'était il y a 2 ans et puis j'ai pas continué depuis parce que c'est trop long. Mais.
J'ai regardé, voilà. Je pense, une bonne centaine, voire peut-être 200 épisodes.
Ok.
J'étais vraiment motivée quand j'étais petite.
Ouais.
Mais je me demande comment ils vont faire. Je pense que c'est vraiment un choix d'avoir choisi One Piece à adapter en série parce que c'est quand même ultra long. Et ils savent pas jusqu'à quand ils auront du budget, quoi.
Oui, aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, ça, parce que je pense que si ça marche bien comme ça, c'est aussi parce qu'il y a le budget pour que ça soit sympa. Et bon, le moment où il y aura plus de budget.
Bon, moi, je pense
qu'après, c'est Netflix.
Je pense qu'ils ont vraiment aucun souci à se faire, moi. Mais alors, vraiment aucun. Ouais, One Piece, ça marche du feu de Dieu en ce moment. Ça s'approche de la fin. Plus ça va s'approcher de la fin, plus il va y avoir des. Plus ça va bien marcher. Et quand la fin va venir, ça va encore relancer le truc. Le problème, ce sera au moment où il y aura plus rien, plus de manga de One Piece. Là, ça va devenir compliqué.
Bah ouais, parce que comme tous les mangas, une fois que c'est fini, ça perd en popularité, ça baisse dans les ventes, ça baisse dans tout. Donc oui, c'est vrai que ce moment-là approche. On n'y est pas encore, je crois.
Non, on n'y est pas encore.
Non, non.
Mais ça approche doucement quand même. Bon, et bah si on a fini avec l'émission, je veux dire au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé.
C'était très cool.
Et bah c'était très cool de faire ça avec vous, c'est très cool de reprendre. Moi j'ai bien aimé cette émission. Et je vous dis au revoir, à bientôt. À dans probablement un mois, je ne sais pas. Et je vous laisse avec une petite musique, on va dire, qui laissera des indices pour de futures émissions.
Non, non.